lo sim chu chu su so ve konza ke lo da sim chu su so ve konza ke java ni kin ke java ton na yo le ma ton na yo le
la so voilà alors les 10 choses également excellentes la première pour celui ou celle dont l'esprit est imprégné du dharma il est également excellent et qu'il abandonne les activités ordinaires ou les activités extérieures ou qu'il ne les abandonne pas.
Drondu semna chope konza ke gom jong le la ma gom jong le son de semna ron tope konza ke.
Voilà, ensuite pour celle ou celui qui a tranché tous les doutes en son esprit, il est également excellent qu'il médite ou qu'il ne médite pas. Alors, lama précisant, évidemment, lorsque l'on a obtenu ce qu'on appelle Renwang, c'est-à-dire vraiment la liberté, la pleine liberté de l'esprit.
Non.
Et toujours dans le même esprit, pour celui qui a coupé les liens qui le rattachaient, mais dans le sens, ces liens de soumission, on pourrait dire, ou être subjugué par les objets des sens, eh bien dans ce cas, il est également excellent qu'elle pratique ce détachement ou ne le pratique pas. Alors, à nouveau, dit Lama, pour autant que nous soyons libres de ce qu'on appelle Shenpa, qui est vraiment le fait de tenir tellement quelque chose qu'on n'arrive pas à le lâcher, si on est libre de cela, si on est libre de la saisie qui est toutes les formes d'appropriation, ou si l'on est libre des attractions dans le sens des attachements puissants, dans ce cas, cela se comprend.
Non,
donc n'est-ce pas, ce qui est dit ici, c'est que finalement, à ce stade, eh bien, que l'on abandonne les activités ordinaires ou que l'on n'abandonne pas les activités ordinaires, finalement, il n'y a pas de différence.
Non.
Et dans le même esprit, si l'on a effectivement réalisé la vacuité, dans le sens ici de vraiment la nature des phénomènes, eh bien il est excellent de demeurer dans une grotte, en solitaire, ou alors de devenir guide de nombreux êtres. Cela est également excellent.
Alors,
et là, vraiment quasi équivalent, pour, donc, dès lors que l'on a compris que toute apparence, c'est-à-dire la manifestation, est illusoire, on la réalise comme illusoire, hein, c'est pas seulement à comprendre, l'on peut alors, il est également excellent de rester de nouveau en retraite solitaire, ou alors d'errer sans but à travers le monde. Non. Si l'on a plein pouvoir sur son esprit, il est également excellent, à nouveau, d'abandonner ses objets d'essence ou alors d'en jouir.
Non.
Si l'on possède l'esprit d'éveil, il est également excellent de pratiquer à nouveau dans la solitude ou de demeurer parmi les humains pour accomplir ainsi le bien d'autrui. Non. Si l'on est animé d'une grande ferveur, si l'on est animé d'une grande ferveur et que notre esprit n'est ni trop tendu ni trop relâché, il est également excellent de demeurer auprès du maître spirituel ou d'en être éloigné. Pas de s'en éloigner, mais d'en être éloigné. Si l'on a beaucoup écouté les enseignements, que l'on en a vraiment pénétré le sens, eh bien, il est également excellent de rencontrer des accomplissements ou de rencontrer des obstacles. Ici, l'idée, parce qu'on parle de beaucoup écouter, Lama emploie vraiment un terme pour dire avoir fait complètement sien le sens des mots. Donc, ce n'est pas juste avoir entendu, évidemment. C'est avoir certes entendu, mais aussi avoir complètement compris le sens et l'avoir parfaitement intégré. Ça devient une partie de soi-même, en fait. Ça devient soi-même. Donc, dans ce cas-là, on peut envisager ça aussi.
C'est que ton date est un garon haco. Donc, ton samot est un garon compte tu.
Non. Oui. On a entendu les paroles, des paroles profondes. On en a retiré le sens profond et on les a vraiment, ce sens, on l'a vraiment placé en soi. Et là, ce qui est exprimé, c'est qu'en fait, bon, d'abord, on doit faire une distinction entre ce qu'on appelle accomplissement sublime et accomplissement ordinaire. Ici, les accomplissements sublimes, c'est justement cette réalisation de ce sens profond, mais vraiment plus que simplement réalisé comme ça. C'est vraiment complètement intégré. Ça, c'est vraiment des accomplissements sublimes. Les accomplissements ordinaires, c'est le fait, Dilama, d'avoir une longue vie, par exemple, hein, ce qu'on appellerait le pouvoir d'immortalité, mais disons, l'idée d'une longue vie, l'idée de richesses qui naturellement viennent, l'idée de pouvoir, pourquoi pas, entre guillemets. Et donc, ça signifie aussi que, eh bien, l'on va pouvoir, dans ce cas, jouir de tout cela sans aucun problème. Pourquoi? Parce que nous n'y sommes pas attachés, dans le sens, nous n'y sommes pas soumis, évidemment. Et par ailleurs, eh bien, si l'on rencontre des obstacles, ben, finalement, c'est équivalent, étant donné que ces obstacles deviennent des incitations à notre pratique de vertu et nous les intégrons naturellement. Oui, parce que vraiment, Dilama, à partir de là, les obstacles qu'on rencontre, encore une fois, on les place dans le chemin, c'est ce qu'on appelle l'amkel, c'est-à-dire on les intègre, ils font partie de notre pratique, on les comprend, et puis finalement, ils deviennent comme quelque chose qui rajoute encore du sens à notre pratique spirituelle, plutôt que quelque chose qui en enlèverait.
Mmh. Non.
Voilà. Ensuite, eh bien, les yogis qui ont obtenu la sublime réalisation, il est également excellent d'obtenir les signes d'accomplissement ordinaire ou de ne pas obtenir les signes d'accomplissement ordinaire. Non, ici encore une fois, Dilama, ces accomplissements ordinaires, c'est par exemple les dons de préscience, c'est par exemple les pouvoirs miraculeux, c'est par exemple la capacité de faire que s'accomplissent les choses exactement telles qu'on les pense, c'est le fait de pouvoir réunir les conditions qu'on pourrait qualifier de chanceux, c'est-à-dire les choses nous réussissent, quoi. Voilà, tout cela sont des marques d'accomplissement ordinaire.
Non,
voilà, donc là un ensemble de choses, les 10 choses également excellentes.
Oui. Tu
vois, je
suis...
Oui.
Est-ce que ces tournures de phrases, il y a une chose et son contraire, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de règle? L'intégration des enseignements qu'il n'y a pas de règle, quoi, et que c'est selon soi, selon ce qu'on entend à l'intérieur, qui fait et bah, qu'on sente qu'on a avancé dans une étape. Quoi.
La question, c'est est-ce que l'on doit comprendre ces aspects qui peuvent apparaître comme opposés, comme signifiant qu'il n'y a pas de règle, ou qu'on comprend, si j'ai compris à peu près la question, qu'on comprendrait comme ça? Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la question, mais disons, tu peux préciser, parce que, excuse-moi.
Non, en fait, souvent dans les enseignements, il y a ça, il y a, faut faire ça, mais en fait, tu peux faire autre chose, quoi.
Oui.
Et...
un aspect contradictoire comme ça.
En fait, oui, il y a souvent ces aspects contradictoires. Et du coup, c'est même plus du coup.
Non, mais c'est pas grave. Peut-être on peut le présenter, hein, comment il s'explique. Ta kongsegedo tene ta tsikashe revola tene a galwana jere revola kainsana cho chik tene tomna lek yene matomna yan tene lek revola tene chetsang tene cho ni na jere revola. Donc là, Lama reprend une parole qu'on retrouve là dans ses instructions, qui est le terme lek et lek, ça veut dire tout est excellent. Et là, à ce propos, Lama dit, effectivement, si intérieurement nous avons, on pourrait dire, complètement réalisé ce qui est à réaliser, donc tout est clair, dans ce cas-là, tout est OK aussi. Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, que tant qu'on n'a pas obtenu cette liberté intérieure, on pourrait dire cette maîtrise aussi de l'esprit, hein, ce qu'on appelle vraiment l'autonomie profonde. Ce n'est pas juste être autonome financièrement, hein, c'est vraiment spirituellement profond. Donc, dans ce cas, dit Lama, eh bien, oui, tout va bien, dans le sens, s'il y a des obstacles, ce n'est pas du tout un problème. Et puis, s'il y a des accomplissements, par exemple, ce n'est pas du tout un problème. D'ordinaire, si on a des obstacles, ça ne va pas bien du tout. Et puis donc, par contre, si on a des accomplissements, on se dit « Ah, enfin, ça va bien ». Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que tout ça est complètement temporaire et que ça n'a finalement pas d'importance. D'autant plus quand on a vraiment réalisé cette autonomie, cette liberté de l'esprit.
약보 또 찾나? 찾나 지니? 그 약보 두보 가리 정나요. 나는 핀 배교동 두고요리.
En fait, en d'autres mots, dit Lama, dès lors que l'on a vraiment compris ce qu'est la disposition naturelle de l'esprit, quoi qu'il se présente, d'apparemment bien ou d'apparemment pas bien, par exemple, eh bien, on va pouvoir se servir de tout. Non. Encore une fois, même les perturbations mentales, ce qu'on appelle les émotions perturbatrices, bah finalement, on se rend compte que, dès lors qu'on en réalise le sens, qu'en leur essence se cache, on pourrait dire, derrière les sagesses. Donc dans ce cas-là, l'on sait s'en servir et l'on sait faire se déployer ces sagesses à partir de là.
Non.
Et si l'on observe alors l'essence même, par exemple, d'une émotion perturbatrice qui nous agiterait, l'on y découvre alors la sagesse. Donc dans ce cas-là, évidemment, tout va bien, parce que nous ne sommes pas emportés par cette émotion perturbatrice qui perd complètement sa nocivité, étant donné que l'on en voit la sagesse inhérente. Et d'autant plus quand on est dans la voie du Vajrayana, du véhicule tantrique, à ce moment-là, tout ce qui arrive pour nous dans notre vie de difficile, de pénible, etc., tout cela est parfait. Pourquoi ? Parce que tout cela peut être compris profondément comme une incitation à la pratique spirituelle. Et puis finalement, eh bien, nous allons pouvoir tout transformer. Et donc dans ce cas, l'on trouve dans chacune de ces situations des maîtres excellents. Mais pour que ceci soit, il faut évidemment s'être entraîné à l'écoute, s'être entraîné à la réflexion, s'être entraîné à la mise en œuvre, c'est-à-dire à la pratique méditative.
Non.
Et dès lors que l'on s'est entraîné à tel point à ces trois pratiques, on pourrait dire la pratique de l'écoute et que l'on réalise la sagesse, sagesse de l'écoute, pareil pour la réflexion, sagesse de la réflexion et pareil pour la méditation, la sagesse de la réflexion. Alors évidemment, à l'aide de ces trois sagesses, tout va bien.
T'es là.
Voilà. Donc là, nous parlions de ces signes de réalisation. Et donc, ce sont là les 10 choses excellemment ou également excellentes. Ensuite, les 10 qualités du Saint-Dharma. Alors, là, le fait que soit exprimé, expliqué les 10 vertus, les 10 actes vertueux, les 6 vertus transcendantes, toutes les formes de vacuité.
Voilà.
Tous les enseignements de l'éveil.
Là, c'est mon boudoir.
Là.
Ta te yindu, ta te la, ta ti non me va tendre la gosa le go.
Là, ça.
Gypsy, Johnson, John Gypsum Jay, never a Nava ship, Gabso, John Gypsum Bay, and Dumba. John Gypsy, true. And you know that John Chip could choose some just subdue good he shows at it. Dombo, that Dombo, Timba never Japa, ye. Somebody, Timba never Japa, ye. Tee, Dombo, little Timba never Japa. I japa, turba trembany, sim trembany, true trembany, lisa sim trembany, yes, or that's on chunchuk, the true sumchu. Subdule, tombo, trembany, very gapa, yes.
Non, ici, donc, nous parlons par exemple des enseignements de l'éveil. Alors là, c'est vraiment très très générique. À l'intérieur de cela, il y a en fait 37, des nombres en général 37 catégories d'enseignement. Le premier groupe de ces enseignements est constitué du placement sur les quatre attentions. Et lié au Satipatthana Sutta en plus. Donc, c'est l'attention sur le corps, l'attention sur les sensations, l'attention sur l'esprit, l'attention portée au phénomène. Bon, là, on va juste donner à peu près les noms pour voir à peu près, mais c'est juste immense.
Tant de temps.
D'ailleurs, voilà, la mal précise en disant on va effectivement juste donner les noms pour se rendre compte un peu, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ensuite, il y a les cinq chemins. Alors, les cinq chemins, c'est le chemin de l'accumulation, le chemin de la jonction, le chemin de la vision, le chemin de la méditation, le chemin de la... Il y a aussi, à un moment donné, le chemin, on pourrait dire, de non-obstacle. Voilà. En plus, il y a des aspects qui se combinent les uns les autres. C'est-à-dire que quand on parle du placement des quatre attentions, en fait, ça intervient dans ce qu'on appelle le chemin de l'accumulation. En fait, c'est là où l'on s'entraîne, c'est là où on en est. Hein. Donc, à l'intérieur de cela, eh bien, on va parler du placement des quatre attentions.
T'es là, ton beau lui, t'es pas n'y avoir qu'y a pas s'en quitter, va. Y a pas n'est, de tard. Non, si, qu'on déjà, du pé, tu t'en pied, j'en, ronque, sème là, non, j'en, non, j'en, sème j'ai, tac, pas, pas de tac, pas, va. Sème j'ai, tac, pas, ma to, j'en, zé, j'en, mais là, son.
Donc, par exemple, le premier placement de l'attention sur le corps, ici, dans ce contexte, c'est vu comme le fait de porter attention au fait que tout ce qui va être expérimenté, mais aussi cette réalité du corps, mais toute la réalité phénoménale, du coup, tout cela est vraiment, dans ce cas-là, compris, mais compris du fait d'un entraînement qui est le nôtre, compris comme des désignations. C'est-à-dire qu'en fait, tout cela n'a pas de réalité propre, mais tout cela est une imputation de l'esprit, c'est-à-dire on va leur donner à ces phénomènes une certaine réalité, alors qu'ils en sont en fait intrinsèquement dépourvu. Donc, dans ce cas-là, on comprend aussi qu'à partir, on pourrait dire, de l'esprit, comme projection, existe l'idée d'un corps.
Non.
Et donc, on observera alors dans ce contexte cette réalité du corps, on pourrait dire. Et toute l'idée, eh bien là, ça sera ce travail analytique, on pourrait dire, méditatif, contemplatif, mais où l'on va réfléchir à toutes les parties qui vont constituer ce corps, en se demandant si on peut parler chaque fois de choses différentes en elles-mêmes, ou alors au contraire, qui seraient identiques.
Chipare, kagare.
Non. Au sens ultime, non.
Voilà.
Même chose, différencié.
Lute tombo, konechon.
Donc, cette réflexion nous mène à nous demander, ben, finalement, quand on parle du corps, d'où surgit-il?
Pardo, tata, karne. Kavane.
Non. Là, maintenant, temporairement, finalement, où demeure-t-il?
Tar, tama, kavan, rogendo. Tel, sopa, taki, kyogu.
Et, en définitive, où va-t-il? Ou où finit-il? Donc, voilà, donc on réfléchit profondément à cette réalité.
Tala, taki, tiene, lu, rongi, mepe, ton, la, nyambriga.
Là, donc. Tout cela nous menant, bien sûr, à la compréhension du non-soi du corps, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on réalise que le corps, dans le sens de l'identité qu'on lui donne, est une fiction et l'on demeure dans cette compréhension. Et ces méditations qui sont dirigées à la fois sur le fait de la prise de conscience de tout ce qui va composer le corps, alors par exemple toutes les matières qu'on appellera matières impures, qui peuvent compter, quoi, impures pas en soi, mais disons qui ne sont pas forcément attrayantes et qui composent le corps, et puis de l'autre côté, réfléchir à cette réalité du corps comme étant une représentation, donc largement illusoire. Et tout cela visant à nous permettre de nous affranchir de la saisie, dans le sens de la saisie, ici on veut dire le fait de s'identifier d'une manière puissante à une réalité qui existerait en soi. Donc l'idée étant bien de s'affranchir d'un attachement, mais c'est pas un attachement standard comme on l'utilise d'habitude, c'est vraiment se rendre compte qu'il y a une forte identification à une certaine représentation que nous avons du corps. Et en fait, c'est là revenir sur le fait qu'il est composé de matières qui ne sont pas forcément si fascinantes que cela, qu'il est profondément impermanent et qu'il est en plus complètement illusoire de ce fait. Et que donc, ceci nous permet de nous affranchir des fixations qu'on y place, on pourrait dire. Voilà, deuxième travail, toujours dans le placement des quatre attentions, c'est porter son attention aux sensations.
Tsorba devatan dungar dada, tsorba devatan dungar dada.
Donc, Et là, eh bien, c'est nous rendre compte, de nouveau, de comment ça fonctionne. C'est-à-dire se rendre compte qu'à partir des sensations qu'on éprouve, qu'elles soient d'ailleurs agréables ou qu'elles soient désagréables, finalement, nous nous emparons toujours de ces sensations. C'est ce qu'on en appelle quelque chose de l'ordre de la soif, c'est-à-dire de l'attrait, hein, qui indique l'idée d'attrait. Et donc, du coup, à partir de là, l'on y trouve la base du développement des différentes perturbations mentales quand cela se développe pleinement. Et là, l'idée, c'est d'aussi, alors d'une part, se rendre compte de cela, mais aussi de se demander si, donc d'où l'idée du travail contemplatif, si ces sensations sont, on pourrait dire, intrinsèquement différentes de la conscience ou pas. Et se demander aussi, évidemment, si il y a quelque chose en les sensations agréables comme en les sensations désagréables qui serait fondamentalement différent en termes d'essence ou alors au contraire absolument identique en termes d'essence ou de nature. Et donc tout cela ayant pour but, évidemment, de pouvoir nous rendre compte que les sensations elles-mêmes sont libres d'existence propre. Et donc, du coup, eh bien, là, on place une méditation qui est la méditation de cette absence de nature de ces sensations. Troisièmement, c'est l'attention qu'on va placer l'attention sur l'esprit cette fois-ci, l'esprit ou la conscience. Alors là, cette fois-ci, eh bien, l'on va observer ce qui est de l'ordre des consciences. Alors, en psychologie bouddhiste, on ne parle pas en fait de la conscience, mais des consciences. C'est-à-dire que chaque conscience sensorielle, plutôt chaque sens, est une conscience sensorielle. Et en plus, c'est toujours des groupes de consciences. Bon, bref, ça veut donc dire qu'à travers ces consciences sensorielles, qui nous permet d'appréhender ce qu'on appellera le connaissable, eh bien, on va développer des notions telles que le passé, le futur, telles que ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Et de nouveau, l'idée est de voir si cela a, on pourrait dire, une identité unique ou différenciée. Non. Non. Voilà. Est-ce une seule et même chose? Non. Est-ce des choses totalement différentes dans leur nature et l'on analyse cela? Donc de même, l'on va analyser l'idée du bonheur, du malheur, du, on pourrait dire, du plaisir, du déplaisir. Ce que l'on considère comme phénomène, ce que l'on considérerait comme non-phénomène. Mais de même aussi, le fait d'aimer ou de ne pas aimer, le fait donc d'une conception d'attachement ou d'aversion. Finalement, tout cela se manifeste toujours dans le champ de nos consciences. Et donc, à nouveau, l'idée est de voir si ceci qui s'y manifeste, c'est-à-dire ces manifestations, sont en essence ou en nature une seule et même chose ou sont différenciés par exemple.
Ta de no ge ji de ka ga re la so pa ta ji je ne ga si ji yin na so ma re.
Et donc imaginons que l'on se dise que c'est une seule et même chose.
Ji yin na sem ji la ga wa ta du pa ga du tang cha don la so pa mon bo am tu mer no ve ju ji yin na te ta ji je
si. Non. Et que l'on se dise donc que c'est une seule et même chose, alors dans ce cas-là, après, il nous faut résoudre un autre problème. Parce que finalement, est-ce qu'au moment où l'on développe cette notion d'une chose agréable ou désagréable, ou que nous sommes dans un état d'attachement ou d'aversion, est-ce que ce sont dans ce cas-là une même chose, ou est-ce que ce sont des choses différentes ?
Alors,
parce que si c'est la même chose, en même temps, on ne pourrait pas les différencier. Donc, bon, voilà. Disons, maintenant, est-ce que... Quoi, bon, c'est juste un exemple de réflexion. Et puis, ensuite, on peut aussi se poser la question suivante. Est-ce que tout cela, en fait, dépend de circonstances, par exemple extérieures?
Ah, ça me l'a...
Non. Et si on se dit cela, observons alors ce qu'il en est de l'esprit qui n'est pas soumis aux circonstances. Et dans ce cas-là, quels sont les phénomènes qui s'élèvent? Et s'élèverait-il éventuellement de telles notion si l'on est privé des circonstances. Alors, est-ce que là, dans ce cas, on parle d'une chose qui est ou qui n'est pas? Est-ce que ces perceptions sensorielles et donc ces consciences, ces événements de la conscience, est-ce que ce sont des choses permanentes ou est-ce que ce sont des choses impermanentes?
Non.
Et là, à l'aide de très nombreux moyens, on va encore et encore fournir cette analyse, cette introspection. Non. Et ceci ayant pour but de nous permettre, non pas seulement de comprendre, mais aussi de réaliser, que l'esprit est ce qu'on appelle non-né et libre d'une racine ou d'une base. Non. Quatrième placement de l'attention, cette fois-ci, sur les phénomènes.
Et donc là, cette fois-ci,
cette analyse, donc, cette attention portée au phénomène nous fait observer ce qu'il en est, eh bien, de ce que l'on appellera alors le corps, de ce que l'on appellera l'esprit ou de ce que l'on appellera les sensations. Et dans le sens où on va pouvoir cette fois-ci analyser cela en se demandant s'il s'agit simplement de notions, s'il s'agit peut-être de quelque chose qui est de l'ordre de composer, auquel cas ce serait donc forcément impermanent, et on peut aussi se demander si c'est le résultat, on pourrait dire, d'un agglomérat, c'est-à-dire de réunion d'éléments ou pas, et observer dans ce cas-là ce qu'il en est de ce qu'on appelle la coproduction conditionnée, c'est-à-dire le fait qu'un phénomène, en fait, si on l'observe bien, se manifeste toujours en rapport aux causes et conditions, mais il n'existe pas d'une manière autonome. Tout cela est un peu compliqué, accrochez-vous un peu, mais c'est de cela dont il s'agit.
Je sais pas. Théâtre, chu de manya yaba yiba chu de manya yaba de yiba.
Non. Ça veut dire qu'on s'interroge sur ce que l'on perçoit comme phénomène, hein, en fait, en clair. Est-ce qu'ils existent d'une manière autonome ou en rapport à des causes et conditions?
Et
donc, à partir du moment où on se rend bien compte, justement, parce qu'on a analysé, et on n'a pas qu'analysé, on a observé, c'est pas qu'intellectuel, on a vraiment observé comment ces phénomènes se manifestent, se produisent, on voit bien qu'il est question là, en fait, de notions, d'agglomérats, de causes et conditions, et donc de coproduction conditionnée, qui font que ces phénomènes se manifestent, eh bien, l'on finit par s'acheminer vers la réalisation de la vacuité. C'est-à-dire le fait que donc les phénomènes, bien qu'on les perçoive, eh bien, sont libres d'existence propre. Il n'y a pas quelque chose en eux, intrinsèquement, qu'on puisse saisir. Et là, bah, du coup, on va se rendre compte que tout cela, qui a, en fait, toute la manifestation dans laquelle on évolue, c'est-à-dire, c'est vraiment la notion du monde, hein, ce que l'on perçoit comme monde, extérieurement et intérieurement, en définitive, il est illusoire, illusoire semblable à un rêve. Et donc, du coup, on voit que ce à quoi ou ce qui fait que l'on puisse s'attacher à cette manifestation phénoménale, c'est qu'on lui donne une certaine réalité, comme si elle avait une réalité intrinsèque qu'on pouvait saisir. Mais du coup, eh bien, on voit ça comme simplement un jeu, comme une manifestation d'un jeu illusoire, et puis là, Lama cite cette image de comme quelque chose qui sont des vagues dans un océan, qui apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Donc, dans nos vérités relatives, c'est-à-dire dans notre expérience quotidienne, eh bien, on voit que les choses se manifestent, mais en même temps, et simultanément, on comprend que tout cela qui se manifeste en vérité ultime, eh bien, il n'y a pas même un atome de réalité à cela. Et donc, dans ce cas, l'on peut s'affranchir de la confusion qu'en général on développe à l'égard de la réalité. Et ça, c'est rien que l'étape du premier chemin, qui est dit chemin de l'accumulation, dans sa première étape, qui est la petite étape du chemin de l'accumulation. Donc on a un beau programme. Hein.
Voilà.
Donc ensuite, on ne va certainement pas tous les faire, rassurez-vous. Hein. Mais c'est juste pour donner une vision. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les quatre formes d'affranchissement. Mais en même temps, c'est intéressant, parce que ça décrit la démarche, ça décrit la profondeur de la démarche aussi. On va le laisser fouiller.
Yon tape pomba yesen gete, chan chip ke chusum chis subdu.
Mm, Voilà, ces quatre, on pourrait dire, total affranchissement sont compris aussi dans ce groupe qui englobe le tout, qu'on appelle les 37 aspects de l'enseignement. Là, quand on parle, là c'est plus simple déjà, c'est quand on parle de ce premier abandon, on pourrait dire, c'est l'abandon simplement de toute forme d'activité négative, mais l'abandon, on pourrait dire, total, complet, naturel. Ensuite, eh bien, c'est aussi ce qui se réfère au futur, dans le sens où nous avons une telle lucidité à l'égard de ce qui a été abandonné que, clairement, nous pouvons nous engager d'une manière absolument claire dans l'idée de non réitérer ces comportements que nous avons complètement abandonnés.
Non.
Et nous développons, à l'égard de toutes les vertus qu'on aura développées, une sincère joie, une joie inaltérable. Et nous sentons en nous l'envie de complètement développer les vertus qui ne l'auront pas été et qui sont alors en œuvre pour nous. Ceci est associé à ce qu'on appelle les... Voilà, puis ensuite, bon voilà, tout cela est lié à ce qu'on appelle les quatre affranchissements, et puis ensuite il y a ce qu'on appelle les deux jambes des miracles. Duntulg et compagnie. Voilà. Les quatre. Voilà, alors ça, c'est différents pouvoirs, on pourrait dire, qui se manifestent du fait de... Là, on est en train de grandir spirituellement, on pourrait dire, dans cette progression. Et donc, là, première, c'est le pouvoir miraculeux du souvenir. C'est-à-dire, c'est aussi la capacité de comprendre la pensée d'autrui, a priori. Alors, il y a aussi, en plus de ces, on pourrait dire, quatre pouvoirs miraculeux, tout simplement, il y a ce qu'on appelle les cinq pouvoirs aussi. Et qui est pouvoir sur la manifestation. Qui, en clair, signifie que l'on sait parfaitement quelle est la nature de la manifestation phénoménale. Mais donc ça veut dire qu'à la fois on les connaît, puis à la fois il y a aussi cette idée de pouvoir de manifestation, ou se jouer de la manifestation. Ensuite, un autre pouvoir, c'est le pouvoir, on appelle cela le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la diligence ou de l'énergie. Le pouvoir du souvenir. Le pouvoir de l'absorption méditative. Le pouvoir de la sagesse. Voilà, cinq pouvoirs qui se développent, alors cette fois-ci, à l'étape qu'on appellera grande phase du chemin de la
conversion.
En fait, c'est là une manière d'énoncer des qualités spirituelles, évidemment, et qui vont s'obtenir ainsi progressivement, à force, quoi, au fur et à mesure du chemin. Alors, ben, quand on parle du pouvoir, et quand on parle là du pouvoir de la foi, en fait, ça indique que l'on connaît les qualités. On connaît les qualités profondes des maîtres spirituels, on connaît les qualités profondes du dharma, des trois rares et sublimes. On connaît forcément donc les qualités du Bouddha, les qualités des dharmas, les qualités de la Sangha. C'est ce qu'on appelle là le pouvoir de la foi, mais qui s'appuie sur la connaissance profonde des qualités que cela représente. Ensuite, eh bien, c'est le fait, quand on parle de la diligence ou de l'énergie, eh bien, c'est le pouvoir d'accomplissement définitif. Ensuite, quand on parle du pouvoir du souvenir, ben, ça veut dire que vient un moment où le sens du dharma, bien, nous ne l'oublions jamais. Donc, ça signifie que l'on peut s'y référer, ben, très naturellement tout le temps. Ensuite, eh bien, aussi le pouvoir de l'absorption méditative, qui signifie, alors là, assez clairement, qu'on peut s'établir de manière constante dans l'absorption méditative, dans l'état d'absorption méditative. Et donc, ça signifie qu'on en est là à ce qu'on appellera Shine et Shaktong, c'est-à-dire le calme mental et la vision supérieure. Et si là on place ceci dans le contexte donc progressif des cinq chemins. Donc là, on en est aux deux premières étapes du chemin de la jonction.
Voilà,
au moment où l'on parle, là on nomme ces étapes du chemin de la jonction de chaleur et de pointe de chaleur. Ce qu'on veut dire, c'est la chaleur comme signe de réalisation spirituelle. Donc au moment où cette chaleur, c'est au sens figuré évidemment, se manifeste, et bien dans ce cas, l'on acquiert alors ces différents pouvoirs qui ont été mentionnés. Ensuite, quand on parle, quand on évoque les cinq forces, en fait, il s'agit encore des cinq pouvoirs, mais finalement, pour indiquer qu'ils se renforcent, qu'ils se multiplient. simplement. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben finalement, il n'y a vraiment plus aucune circonstance qui peut intervenir comme un obstacle ou un empêchement. Voilà,
donc
il y a, que rien ne devient obstacle à la progression spirituelle, à la
croissance.
Là, par exemple, hein, c'est typique de, du pouvoir, avant nous parlions du pouvoir de la foi, donc encore une fois, un foi-confiance qui s'appuie sur la compréhension des qualités, ça veut dire que quand c'est devenu une vraie force, eh bien, plus rien, c'est-à-dire plus aucune circonstance, même difficile, contraire, n'importe, ne peut endommager cette confiance. Elle est inébranlable. Donc voilà, bon, pareil avec la force du souvenir, c'est-à-dire elle est grandissante dès lors qu'on passe d'un pouvoir à une force. Ça veut donc dire à ce moment-là que l'on peut se souvenir de tout ce dont il est question de se souvenir, que l'on n'oublie strictement rien, évidemment. Mais ce n'est pas juste avoir une mémoire. Plus que ça. Non. Donc, ensuite, pareil avec l'énergie. L'énergie devient grandissante dès lors que ça devient une force.
Non, pas du pouvoir à
la force. Clairement, et là, il y a un sens très pratique, c'est-à-dire que toutes les paresses, les indolences qui sont les nôtres, elles sont vaincues aisément. Pareil après pour l'absorption méditative, c'est-à-dire quand on passe du pouvoir à la force de l'absorption méditative, ça signifie, ben, par exemple pour Shiné, c'est-à-dire la stabilité mentale, ça veut dire que l'esprit demeure autant qu'il veut dans la stabilité. Pareil avec la force de la sagesse, parce que c'est ce qui va avec Hlaktong, c'est-à-dire Vipassana, la vision supérieure. Donc ça signifie qu'on peut rester dans cette absorption. Quand on dit vision supérieure, c'est qu'on voit la nature de l'esprit, en fait, et l'on peut y demeurer autant que l'on souhaite. Donc voilà, pour exprimer que là, avant on parle des cinq forces, et des cinq pouvoirs, et là maintenant des cinq forces. Tout cela se manifeste à l'étape dite chemin de la jonction, dont les étapes supérieures du chemin de la jonction. Non. Et ce qu'on appelle, on appelle en général cette étape la grande patience. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sept aspects des chemins des nobles. Donc il y a d'une part, on pourrait dire cette branche aussi, tout ce qui est de l'ordre de la conscience, le souvenir. Tout cela alors intervient à l'étape, le chemin d'après, qu'on appelle le chemin de la vision. Pourquoi on appelle ça le chemin de la vision? Parce qu'à un moment donné, dans cette progression vers l'éveil, on se met à vraiment voir la nature ultime.
Donc, c'est
Et ça veut dire qu'avant on pouvait en avoir des aperçus, mais là on peut commencer à établir ce qu'on appelle le continuum. C'est-à-dire qu'on c'est comme un flot, hein, une contemplation comme un flot.
Alors,
c'est ce qu'on appelle ici, cette, parmi les sept branches de l'éveil, le souvenir. Dans le souvenir, dans le sens où on revient complètement tout le temps à ce flot où l'on contemple la nature des phénomènes.
Non.
Ensuite, deuxième branche, c'est la branche qui exprime l'idée de la pleine connaissance des phénomènes, mais dans leur diversité. Et ce qui exprime aussi le fait de pouvoir, en fait, commencer à demeurer dans l'aspect éveillé de la conscience. Et là, c'est plus seulement une connaissance, c'est aussi une sagesse primordiale. On fait une distinction, parce que la connaissance, c'est aussi un peu du domaine de l'acquis. Là, c'est vraiment, ça commence à devenir une sagesse primordiale, c'est-à-dire fondamentale. Et c'est donc là une des branches de l'éveil, que cette qualité de connaissance ou de sagesse. Non, c'est un moment où l'on peut complètement comprendre, on pourrait dire, la profonde singularité et spécificité de tout phénomène. À la fois, on comprend leur nature profonde, mais ce n'est pas non plus une espèce de grand mélange et de grand tout. C'est, on comprend vraiment la spécificité de chaque phénomène. Ensuite, donc, quand on parle, là, de nouveau, on évoque l'énergie, la diligence, comme branche, une de ces sept branches de l'éveil, ça veut dire qu'on se met à pouvoir, on se place, quoi, on est là sur une, ce qu'on appelle une terre de bodhisattva, c'est-à-dire on devient, on manifeste les qualités d'un
bodhisattva.
Et ici, cette notion d'énergie, ce n'est pas l'énergie standard, c'est vraiment l'énergie dans le sens de l'accomplissement du bien d'autrui. C'est-à-dire que plus rien ne va faire obstacle à cette capacité même de pouvoir utiliser son corps, son existence propre, au bien de tous les êtres. Donc on peut parfaitement les consacrer au bien de tous les êtres. Non, donc encore une branche de l'éveil qui est cette énergie. Ensuite, une autre branche parmi ces sept qui est la joie. Et la joie parce que, en fait, ça correspond à la première terre des bodhisattvas où cette fois-ci nous nous y établissons et qui s'intitule justement « Joie sublime » parce qu'enfin nous voyons vraiment la réalité. Non, dans ce cas-là, commence, alors on pourrait dire, la progression au-delà du cycle des existences. On s'affranchit du cycle des existences.
Non.
Et en fait, en l'esprit, c'est une joie ineffable. Là, il y a vraiment une joie ineffable. C'est un bonheur ultime, on pourrait dire. Et d'où l'idée de parler de cela alors comme branche de la joie.
Non.
Ensuite, il y a le parfait entraînement, mais dans le sens de la parfaite maîtrise. Ça veut dire qu'autant le corps que l'esprit peuvent parfaitement, on pourrait dire, déployer leur activité au sein même de l'absorption méditative. Oui, et qui est lié donc à la branche dite de l'absorption.
De nyambar jyok tepe kapla tengzi jangjib jiyena
segdo. Et ici, ce que cela indique, ça indique un moment où on continue à approfondir notre pratique méditative. Mais avant, il y avait un peu un aspect chiné, c'est-à-dire calme mental, un aspect vision supérieure, et là, il y a indifférenciation des deux, c'est-à-dire où viennent se joindre à la fois cette qualité de pacification et de vision supérieure. Donc du coup, on évoque après une branche, c'est la branche de l'équanimité. Non, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on parle d'équanimité, c'est pas de nouveau, au niveau d'une qualité ordinaire, c'est vraiment qu'on comprend la saveur égale de tous les phénomènes. L'on peut demeurer alors dans l'égalité fondamentale de tout phénomène. Donc du coup, cette réalisation de cette équanimité signifie que bien, toutes les catégories ordinaires, telles que ce qui est proche, telles que ce qui est lointain, tout en fait, tout ce qui en nous est partial, en définitive, donc ça franchit. Donc, il peut y avoir encore à ce stade de fine, très fine perception duelle, en quelque sorte, mais ce n'est que de cet ordre. Tout cela se situe au moment du chemin de la vision. Voilà, donc, c'est ce qu'on évoque quand on parle des sept branches de l'éveil. Non, donc avant on parlait de cette grande souplesse ou grand apprentissage dans le sens de grande maîtrise, donc évidemment liée à l'absorption méditative. Et du coup, forcément, c'est comme un approfondissement de ce que l'on réalise. Donc, ça veut dire, explicitement à ce stade, que pour le corps comme pour l'esprit, il n'y a plus aucune difficulté, il y a une grande aisance. Alors ça se traduit aussi très pratiquement, parce que ça signifie qu'il y a une très grande familiarité avec cet état intérieur. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de difficulté à accomplir non plus la pratique. Et c'est du fait même, là on utilise vraiment ce terme de Jong qui peut faire penser à la fois à la grande souplesse, à l'aisance, à l'entraînement parfait, et qui fait que nous sommes tellement familiarisés, tellement entraînés à cette absorption, que l'on finit donc par en obtenir le fruit.
Non.
Et donc après, on évoque huit branches des nobles. Donc ça veut dire qu'on voit parfaitement les choses, c'est la vue parfaite.
Ça tombe, rab de gawa, top pencho, top ne, top pencho, tenez, tava la non chutan roya yomare sonri.
Parce qu'en fait, à partir du moment où nous sommes alors établis à cette première terre de Bodhisattva, cette vue, c'est-à-dire c'est la compréhension des choses, eh bien, à partir de là, toute cette progression va se faire sans aucune erreur du point de vue de ce qu'on comprend. On parle d'une vue parfaite parce qu'à ce moment-là... Parce qu'à ce moment-là, on peut même parler de parfaite réalisation. C'est-à-dire que la vacuité n'est plus une idée. À ce moment-là, on comprend vraiment, on réalise vraiment ce que cela est.
Tene tawa teyon ngon somta tope lo yimbe jimtsin la tene rwa.
Non, parce que vraiment on réalise ce que l'on s'était représenté avant.
Et on t'a tout pas sérieux.
Et c'est là la réalisation parfaite. Donc la vue parfaite, la réalisation parfaite.
Ah tawa yon longtemps je pas la temba d'abo tene temban d'abo tang long je pas la temba tawa tang donc la men ga la temba que tawa tada mai pa
non
tede mai pa ron que nyon to ne jo to to pa
non. Et là c'est plus du tout une réalisation de la vacuité qui dépendrait de la connaissance qu'on aurait des écritures, c'est-à-dire des enseignements du Bouddha, ni même de la connaissance qu'on aurait des instructions libératrices du maître spirituel, mais c'est vraiment quelque chose qui est intime, c'est-à-dire dont on fait l'expérience soi-même et on parvient à cette connaissance. Quand on parle de parfaite réalisation, ça veut dire que eh bien, cette parfaite réalisation, elle découle des expériences et de la réalisation que l'on fait soi-même. Donc là, il y a... Voilà. Non. Là, à ce moment-là, même le mot non-vertu n'existe pas. Ça fait plus partie du vocabulaire. Non. Et donc, c'est pourquoi c'est une manière de dire qu'on parle ici de la parfaite parole ou de l'authentique parole, parce qu'il n'y a plus rien qui ne puisse être prononcé ou dit ou exprimé qui serait de l'ordre d'une négativité quelconque. Et là, on parle de la parfaite activité. Ça veut dire que la manifestation qui sera la nôtre. Alors là, on évoque le système de caste, c'est-à-dire qu'on doit comprendre comme, par exemple, dans des castes inférieures, là, dans l'Inde traditionnelle, chasseurs, bouchers, etc., qui sont vus comme des existences freinant l'activité ou n'étant pas propices. Il n'est, à ce moment-là, dit le texte, plus du tout possible d'être pris dans des existences qui ne permettent pas de manifester les qualités
éveillées.
Ce qui est une façon d'exprimer qu'à ce moment-là, il n'est même plus concevable de s'engager dans des activités nuisibles. C'est une manière d'exprimer justement ce terme. On parlera de karma parfait dans le sens de conditionnement parfait. Non. Ensuite, on parle de moyens d'existence parfaits. Oui, parce que là, c'est lié à cette notion, hein, même dans le bouddhisme ancien, on parle des modes d'existence justes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout là de mode d'existence qui serait contraire. Clairement, ça veut dire que l'on n'a plus du tout recours au truc habituel, on pourrait dire, c'est-à-dire où il y a de la possibilité de mensonge, d'hypocrisie, de calcul, de stratagème, etc. Il n'y a plus rien de cela. Ce qui, en d'autres termes, signifie que le mode d'existence, le mode d'être, est complètement libéré de ce qu'on appelle les différentes préoccupations ordinaires. Ensuite, il y a les sensations parfaites.
Voilà.
On parle de sensation parfaite parce qu'en fait, ça signifie qu'on on sent dans le sens de percevoir la réalité vraie de la vacuité et qui ceci se manifeste comme le fruit de cette grande énergie. Ben, disons, c'est lié à la grande énergie que l'on a à cette compréhension. Et du fait d'accéder à cette compréhension de la vacuité, on parlera de, on pourrait dire, conscience parfaite, mais dans le sens de la vacuité. Et à ce moment-là, il suffit de vouloir demeurer dans, on pourrait dire, la naturelle réunion des qualités de stabilité mentale et de vision supérieure, c'est-à-dire shamatha vipassana complètement unie, pour y demeurer. Et donc, c'est pourquoi on évoque alors la parfaite absorption méditative. Tout cela est compris dans ce qu'on appelle les huit branches de l'éveil. Avant, nous évoquions sept, là, il y a un autre groupe de huit. Voilà, donc, par exemple, ceci, si on le comprend dans un autre, dans une autre présentation, c'est aussi ce qui se développe pour ce qu'on appelle les auditeurs.
C'est là, tu,
c'est à la, et là, on évoque la connaissance du Dharma, l'exposé du Dharma. La connaissance de la réalité relative. Ce qui est aussi lié, si on place cela dans... Alors, il y a différentes écoles philosophiques hein, au sein du bouddhisme, et les premières qui appartiennent à ce qu'on appelle le véhicule des auditeurs vont insister là sur la compréhension du non-soi, le non-soi de l'individu, par exemple. Hein, on entend souvent parler de cela. Eh bien, ces connaissances qui sont évoquées, elles se rapportent à cette pleine connaissance du non-soi de l'individu.
Donc, on peut dire là, il y a peut-être qu'on a que
Quand on parle ici de connaître le Dharma, ce n'est pas juste connaître des enseignements. Ça veut dire connaître vraiment l'anatman, c'est-à-dire le non-soi. Savoir que c'est vraiment qu'une désignation.
Non.
Ensuite, quand on parlait avant de l'exposé du Dharma, mais on pourrait plutôt dire une connaissance vaste. Et là, ça veut dire aussi que on comprend que les états très subtils de conscience qui peuvent s'établir dans ce qu'on appelle les domaines de la forme ou du non-forme, qui sont aussi en général associés à des états de deva, quoi. Bref, c'est des états de conscience subtils, on sait qu'ils sont libres d'existence propre.
Ça
veut dire que là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir des grandes félicités à l'intérieur de ces états, mais on sait aussi à ce moment-là que ces félicités-là, elles sont aussi libres d'existence propre, tout en les éprouvant. Donc, c'est ce qu'on appelle connaissance vaste.
Quand on dit que jikten chuje nezer malipa jimeto chinto kuyores.
Non, quand on parlait avant de la connaissance de la vérité relative, ça veut dire que finalement, on pourrait dire un peu dans une formule, il n'y a pas une chose du monde qui nous échappe, dans le sens où on comprend complètement la réalité même de la vérité relative.
Pena dajam batanso ke ton sum yorwala.
La so.
Ton sum je non ne ton ni non sum de to tu yoris.
La so. Bah, par exemple pour les arahats, hein, donc libérés du cycle des existences.
Ton sum ton ni ke. Ton sum ke ton ni ke ne so te ton non sum de ze tu yoris.
Bah, par exemple, quand on parle du trikliocosme, alors là, c'est une notion pour dire la myriade des univers, hein, parce qu'on est vraiment dans une vision cosmique extraordinairement large. Donc, mais trikliocosme, ça fait penser à, bon, voilà, deux fois mille, quoi, disons, deux tiers de cette myriade d'univers apparaît clairement à la connaissance de l'esprit de ces êtres réalisés.
Tenez, yinsem shipasen.
Non. Et donc après, on évoque, mais c'est certainement lié à la possibilité de connaître la situation d'autrui.
Jinje semla nomto kare yogyame tomba shitoyoreso.
Oui, complètement. Étant donné que ça signifie aussi pouvoir comprendre ce qui se trame dans l'esprit et de la conscience des êtres.
Non.
Donc ces arahats, eh bien, accèdent à cette connaissance.
Non,
c'est ce qu'on appellera là la connaissance de l'esprit d'autrui. Mais ils comprennent aussi, ou l'on comprend, hein, parce qu'il s'agit aussi de l'autre progression spirituelle, à ce moment-là complètement, ce qu'on appelle la vérité de la souffrance, hein, une des quatre vérités des nobles. On comprend aussi la deuxième, c'est-à-dire voilà, l'origine de cette souffrance. Et ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que par rapport à ces quatre vérités des nobles, quand on évoque première vérité de la souffrance, deuxième vérité de l'origine de la souffrance, ça veut dire en fait que nous comprenons donc comment et pourquoi le samsara se manifeste et donc quelle en est l'origine. Et nous comprenons aussi les deux autres vérités, c'est-à-dire la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance et la vérité de la cessation. Et ce qui signifie que donc nous accédons aussi à la compréhension de tout ce qui est au-delà de l'existence ordinaire. On parle là de l'épuisement, hein, le nirvana qui est comme une extinction, dans le sens, c'est évidemment une réalisation, mais dans le sens où s'épuise ce qui devait être abandonné ou épuisé.
Donc, c'est pas qui pas, c'est là, c'est comme, comme somme de Dieu, comme somme de Dieu, comme somme de Dieu, comme somme de Dieu, Dieu, n'yomon pas, malu pas.
Parce qu'ici, cet état de arahat, donc de réaliser, on pourrait dire, eh bien, quoi, en fait, oui, c'est bien ça. Et quand on parle d'extinction, et le nirvana est souvent hein, synonyme d'extinction dans ce sens, où, eh bien, ce qui s'épuise, c'est les causes mêmes de renaissance dans les différents états d'existence. C'est-à-dire quand on parle, par exemple, des trois sphères d'existence, le domaine du désir, le domaine de la forme et du sans-forme, qui regroupent toutes les possibilités d'être, eh bien, l'origine, on pourrait dire la cause de cette manifestation, ce sont les émotions perturbatrices. Et ce qui s'épuise, ce sont les émotions perturbatrices.
Tu vois, mais tu vois, je ne sais pas, c'est là, ça, comme ça, tu vois, les pas, peine, il y a une
On évoque aussi le pouvoir de non-renaissance, dans le sens où ça signifie que, du coup, on n'est plus happé par ces renaissances dans le cycle des existences, vu que nous sommes libres même de ce qui est à l'origine de ces manifestations illusoires. Mais en même temps, dit le texte, c'est aussi quelque chose qui, du point de vue du Mahayana, cette espèce de félicité du nirvana est un frein à l'activité pour le bien d'autrui, parfois. Par contre, il y a toute possibilité, on pourrait dire, de se manifester, mais dans le sens d'être pris par ces conditionnements des trois domaines d'existence, est parfaitement épuisé. Mais maintenant, du point de vue de Mahayana, vu que cela ne réunit pas non plus complètement les conditions pour manifester cette activité, pour bien d'autrui. Ça signifie qu'en fait, donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que se plaçant dans une espèce de nirvana qui représente là une sorte d'au-delà des existences conditionnées, du point de vue du Mahayana, parce que ça c'est une présentation assez Hinayana, du point de vue du Mahayana, c'est un peu un frein à une activité pour le bien d'autrui à l'intérieur des états conditionnés. Et donc en fait, les bodhisattvas, bodhisattvis vont concevoir l'activité pour le bien d'autrui à travers le développement de toutes sortes d'activités bénéfiques, mais à l'intérieur des états conditionnés. Et donc, il va être nécessaire à, on pourrait dire, ces êtres, mais qui sont extraordinairement réalisés. Ils sont dans la félicité du nirvana, mais il va leur falloir, on pourrait dire, comme dit le texte, apprendre cette activité des bodhisattvas afin de pouvoir sortir de cette félicité et s'engager pour le bien d'autrui au sein même du cycle des existences. Et donc voilà, pour l'instant, ce qui freine cette action, c'est ce que nous avons décrit. Voilà, donc là, on vient d'évoquer un ensemble de 10 connaissances, en fait. Après, là, il y a l'évocation de ce qu'on appelle les univers, avec cette représentation traditionnelle et sublimée des quatre continents majeurs d'une montagne axiale, et des
différents astres.
Mais peut-être qu'on va un peu en rester là quand même, Dilama, parce qu'il y a quand même encore tellement de choses à dire là quand je regarde le texte, Dilama, parce que c'est un texte annexe, que peut-être je pense qu'on va en rester là.
Non.
Il y a déjà pas mal, mais en même temps, ça explicite juste une phrase, hein, donc et c'est, on est pour l'explication. Mais ça, comme très souvent, hein, il y a un texte racine et il y a des commentaires qui viennent expliciter chaque sens de chaque mot et chaque terme. Je préfère qu'on en reste là, Dilama, parce que je pense qu'il y a carrément trop de mots. Je ne vois pas comment on finirait là si on continue, si on continue dans cette lancée.
Paro de Chimba Chupo. Chupo. Paro de Chimba Chupo. Tombani. Chanjubji.
Voilà, donc simplement là, dans le texte de Gampopa, il évoque là Voilà, donc simplement il évoque là différentes sortes de choses telles que les 10 actes bénéfiques qui font partie évidemment des qualités du Saint Dharma, les 6 vertus transcendantes. Toutes les formes de vacuité. Toutes ces 37 branches ou aspects donc de l'éveil qui sont représentés ici par tous ces dharmas de l'éveil. Ce qui inclut aussi les quatre vérités des nobles. Les quatre formes d'absorption méditative ou les quatre dhyanas. Qui sont liées à ces états de conscience subtils propres aux états de Deva aussi. Les quatre modes d'absorption encore plus subtils des mondes sans forme. Et ensuite, toutes les initiations du Vajrayana qui vont permettre de faire mûrir directement le potentiel de l'esprit, etc. Tout cela est une qualité du Saint Dharma. Ensuite, que soit advenu, comme on le voit ici hein, dans la traduction, les classes royales, sacerdotales, puissante parmi les humains. Les maîtres de maison puissants, on fait aussi référence à des catégories sociales en Inde. Non, voilà, donc c'est maître de maison.
Djati yé la sopa, sopa, dokom djé, la yé, trok son ré.
Non. Les quatre grands rois, les six classes de Dieu, donc de Deva, du monde du désir. Les 17 formes d'existence des Devas du monde, on pourrait dire, de la pure forme. Et ensuite, les quatre états ou modes d'existence des devas du monde sans forme. Non. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que temporairement, là, il y a beaucoup de bonheur. Et ce que ça exprime, c'est que même aussi ces bonheurs temporaires, des plus ordinaires aux plus subtils, sont aussi une des qualités du Saint Dharma. Alors, que soit dans le monde, ceux qui sont continuellement sur le chemin de l'éveil, ceux qui ne reviendront pas à l'existence ou qui ne reviendront qu'une seule fois, ceux qui n'y reviendront plus, les arahats, les réalisateurs solitaires, qui sont tous des noms pour décrire des formes de réalisation. Les parfaits Bouddhas, on parle là des Samyaksam Bouddhas, mais en fait ça veut dire des parfaits Bouddhas pleinement réalisé, eh bien, toutes ces différentes formes d'éveil des plus, on pourrait dire, ordinaires aux plus sublimes, sont une qualité du Saint-Dharma. Ensuite, la manifestation, on parle là des deux corps formels. Il faut simplement le comprendre comme la manifestation, par exemple, le Bouddha est une manifestation d'un corps formel. Donc, ces manifestations à la fois de corps formel, mais aussi du corps de jouissance, eh bien, se manifestent par compassion en vertu, comme il est expliqué ici, des souhaits et de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire de ce qui a été ardemment désiré et souhaité intérieurement par les bodhisattvas, cela œuvre continuellement pour le bien des êtres. Eh bien, ces manifestations sont aussi une des qualités du Saint Dharma. Donc voilà, ici, ces deux corps formels, c'est à la fois les corps de manifestation et les corps de jouissance. Et puis, plus simplement, tous les objets, dans le sens aussi des conditions, qui permettent aux êtres de vivre pleinement, tout ce qui répond à leurs besoins, toutes ces choses qui, dans leurs excellences, apparaissent comme résultat des prières des bodhisattvas, et par là même, tout cela est une qualité du Saint Dharma.
Donc,
des conditions favorables aussi dans ce sens.
Karpo geve sonam le trupe na
Ensuite, les bonheurs occasionnels, c'est-à-dire temporaires, éprouvés dans les trois états d'existence inférieurs, les états en lesquels on n'a pas la possibilité de pratiquer le dharma, donc des situations même très compliquées, mais le bonheur qui peut quand même malgré tout s'y trouver, étant le résultat des actes bénéfiques accomplis par ces êtres, cela, ces bonheurs, sont aussi une qualité du saint dharma. Alors ensuite, que des êtres ayant commis de très grands actes nuisibles puissent, en même temps, leur esprit s'étant tourné vers le dharma, devenir des saints honorés de tous, est une qualité du saint dharma. Voilà, qu'ils puissent ainsi donc devenir ces êtres accomplis, eh bien, est une des qualités du
Saint-Dharma.
Ensuite, un peu voilà, dans la même veine, mais là que des êtres qui se destinent par leurs actions à éprouver ces expériences, par exemple infernales, et puissent changer du tout au tout en pratiquant le dharma et en venir à obtenir des états d'existence tout à fait favorables ou supérieurs, et même parvenir à la félicité de la libération, eh bien, est encore là une qualité du
Saint-Dharma.
Ensuite, que l'on ait foi ou simplement aspiration, enthousiasme pour le dharma, ou bien que l'on ne fasse qu'en détenir, en fait, les attributs et que cela plaise à tous. Et que l'on soit ainsi honoré de tous est une qualité du saint dharma.
Okay.
Ça va? Il y a une, besoin d'une question? Non? Oui?
Oui, mais c'est concernant les arates.
Les arates, oui?
Ouais. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y avait de. Qu'est-ce qu'il y avait de la compassion pour les arahats? Parce que j'ai déjà entendu dans d'autres enseignements, pas ici, des enseignements qui n'avaient pas de compassion. Et ça me semble impossible étant donné qu'ils ont réalisé les quatre heures de vérité.
Ta bena kashi ki segere rola tene da chumpa da chumpa de so tene ninje kene yo mare rola kashi ki segere tene da chumpa de so inju tene konto ki semlan semna na tene ninje kene yo mare rola
aya te zinre
non non ça c'est des mensonges
ninje ninje maba mare te ninje maba mare te ina
Non, on ne peut absolument pas dire ça. La seule chose qu'on puisse dire, et c'est d'ailleurs ce que cela indique, c'est que du point de vue de l'ardeur, on pourrait dire, ou de la force d'esprit, elle est plus petite, elle est plus rétrécie. Il n'y a rien de dépréciatif. Oui, donc, ça va de pair. C'est-à-dire, vu que les choses sont vues en petit, on pourrait dire, il n'y a pas cette ardeur, ce courage des bodhisattvas.
Teinza, tene, nema sonje geba, nema sonje ta chanchub samba ta tsoka tene, nzepa, nyamne kande che yopa.
Non. Et c'est clair que par rapport à ces actes des bodhisattvas, bodhisattvis du passé qui sont énoncés, qui sont extraordinaires,
Non.
Mais pour les bodhisattvas, bon, encore une fois, l'espace est infini. Donc, vu que l'espace est infini, il y a logiquement des êtres en nombre infini.
Non.
Donc voilà, pour le ou la bodhisattva... Voilà, ou bodhisattva, ce nom n'est pas un problème. C'est-à-dire que tout à coup, l'individu bodhisattva ne va pas se dire, oula, il y en a trop. Non, au contraire, il va se dire, eh bien, très bien. Donc dans ce cas-là, j'agirai pour l'infinité des êtres. Et mon activité, elle sera à l'égal de cette infinité.
Non,
il y a un très beau passage dans la prière de la conduite excellente qui est vraiment, on pourrait dire, la prière de souhait par excellence et qui dit bien: puissent mes souhaits être aussi vastes et illimités que cet ensemble illimité d'êtres aussi vaste que l'espace. Voilà, alors après, on va exprimer cela en disant, bah, par exemple, que voilà, bien sûr, quand ces récits des activités des bodhisattvas, des bodhisattvis sont faits, c'est une activité qui est proprement, on pourrait dire, nous, hallucinante. Elle dépasse toute limite, dans le sens où l'on va voir ces bodhisattvas être prêts, même s'il est nécessaire, d'offrir leur tête, d'offrir leur corps, etc., qui manifestent leur pouvoir aussi, évidemment. Mais donc, à ce moment-là, eh bien, certains, entendant ces activités, vont se dire « Oulala, mais c'est impossible, je crains cela ». Certains récits racontent aussi que, tout à coup, c'est tellement effrayant qu'ils ont vomi du sang, donc pour dire l'effroi.
Non.
Donc voilà, c'est simplement une question d'amplitude, on pourrait dire. Alors, certes, il y a vraiment clairement pour ces arahats l'idée d'être libre du cycle des existences. D'ailleurs, ils se libèrent du cycle des existences. Mais encore une fois, l'amplitude est plus faible.
Non.
Mais il nous faut évoquer les moyens mis en œuvre par le Bouddha. Et là, le Bouddha s'adresse aussi à des êtres qui perçoivent les choses ainsi et qui vont leur dire, eh bien certes, il est tout à fait possible aussi de réaliser l'éveil et de le faire d'abord pour soi. En fait, là, il expose le Bouddha la voie dite des auditeurs. Et puis, cet état de réalisation, donc le nirvana, est indiqué là par le Bouddha comme une sorte de pause, une pause dans le chemin vers le plein éveil.
Non. Donc
voilà.
Voilà.
Donc, mais même si il y a donc effectivement cette crainte de devoir ou de pouvoir agir, d'être à même de pouvoir agir pour cette infinité des êtres, il y a par contre une très nette clarté quant à ce que sont les existences conditionnées. On parle là de frayeur pour dire cette grande lucidité. Et donc, il y a aussi cette très profonde réalisation de la vacuité. Et là, c'est ce qu'on appelle un état de réalisation encore entaché, mais dans le sens où à la fois ça signifie une totale liberté du cycle des existences, mais encore avec quelque chose à réaliser.
Non,
on peut entendre les maîtres, des maîtres du Hinayana clairement affirmer avec force aussi le fait de pouvoir être clairement libéré du cycle des existences et n'y pas revenir. Alors là, après, on va décrire on pourrait dire ce séjour dans le nirvana comme durant des airs cosmiques et des airs cosmiques, mais c'est la contemplation pure aussi de la vacuité que ça exprime. Il n'y a plus même le son de la souffrance. Ils vont penser qu'ils sont éveillés.
Non.
Et donc, mais malgré tout, eh bien, c'est une absorption méditative dont il est question, et cette absorption méditative, elle continue à faire son chemin, on pourrait dire, elle se développe. Et donc vient un moment, un jour, où, eh bien, suite à cette immense période de temps carrément cosmique, eh bien, on pourrait dire, leur corps mental est comme touché par le corps lumineux du Bouddha. C'est comme une pleine manifestation du corps lumineux du Bouddha.
Tenez.
Et à ce moment-là, cela indique le moment où ils sortent de cette absorption, mais en même temps, au moment où ils accèdent au plein déploiement lumineux du Bouddha qui se manifeste à eux. Et à ce moment-là, ils entendent le Bouddha s'adresser à eux et leur dire « Tout n'est pas encore fait, tout reste encore à faire, vous n'êtes pas encore des Bouddhas pleinement éveillés.
»
Le moment est venu maintenant pour vous de vous engager dans le Mahayana. Voilà, et puis donc ensuite, eh bien voilà, ce chemin se poursuit. Alors on parle parfois de trois aires cosmiques encore innombrables, mais où ils vont
Et
bien ils vont continuer finalement leur chemin, leur voie, et donc par contre, comme on l'a vu avant dans le texte, Dilama sont des formes d'existence qui réunissent les conditions favorables, et là ils vont continuer à développer les qualités, que disons tout ce qu'il faudra pour atteindre le parfait éveil. Voilà, mais c'est sûr que par rapport à ça, c'est sûr que par rapport à ça, la figure du Bodhisattva, elle est proprement inouïe. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment cette idée d'avoir l'audace, le courage incroyable, la bravoure d'agir pour tous les êtres. Et puis pas seulement d'ailleurs pour les êtres humains, parce que un bodhisattva, une bodhisattva va se dire, mais aucun problème, s'il me faut endurer les souffrances humaines, eh bien je le ferai pour le bien de tous les
êtres.
Non, mais on voit dans les souhaits des bodhisattvas ce caractère infini. Pourquoi ? Parce que c'est aussi lié aux quatre éléments. Ils vont par exemple formuler le souhait « Puissais-je être un pont pour celles et ceux qui auront besoin de franchir les rivières ?»
Ça. Sa gongin le sa jiao bai shuo, qiu gongin le qiu jiao bai shuo, long gongin le long jiao bai, cao gongin le cao jiao bai shuo, zhong mo gongin le zhong mo jiao bai shuo, c'est mon nom d'abord.
Là, ils vont dire, puissais-je être la terre pour ceux qui en manquent et en ont besoin, puissais-je être l'eau pour ceux qui en ont besoin, puissais-je être la chaleur pour ceux qui ont besoin de chaleur, puissais-je être la fraîcheur pour ceux qui ont besoin de fraîcheur, puissais-je être le vent pour ceux qui ont besoin de vent.
Oh, t'en veux que quoi, on attend. Quand tomboni sempiena te que ridu yona me tanda te son yore chojo sembere sore ta ya yore se ta yore son.
Voilà, et donc ces souhaits, eh bien, on peut s'y entraîner et les formuler. Après, eh bien, voilà, ça dépendra aussi de notre potentiel, mais en même temps, ce potentiel se dénote aussi dans l'individu.
Non,
il y a un fameux dicton qui justement indique cela en disant c'est un peu comme la fumée qui indique un feu, comme un oiseau aquatique qui indique la présence de l'eau et comme les qualités compassionnées qui vont indiquer ce potentiel de
bodhisattva.
Alors, voilà, et donc ce dicton, ou plutôt cette strophe, parce que ça vient d'un texte, et dit bien que, ben voilà, si on veut s'assurer qu'il y a de l'eau quelque part, il nous faut repérer les signes, et donc les oiseaux aquatiques sont évidemment un signe de la présence de l'eau.
Tenez, il y a un médic, quand il y a un médic, l'ombre maisonne, quand il y a un tovagic, l'ombre, dit tovagic, l'ombre, 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 l'ombre,
de la même manière, eh bien, si l'on cherche du feu quelque part, la fumée forcément indique la présence du feu. Et le signe, de la même manière, existe dans l'individu, et ce signe, eh bien, c'est, on pourrait dire, c'est cette bonté naturelle, c'est le fait de la prévenance, c'est le fait de la bienveillance qui naturellement va poindre et va avoir envie d'être manifestée pour les autres. Voilà ce qu'est dit.
Ta te ga sa je le son non de ye tam je ze ba ye ta na ne be ga nam ba je ne je ga na je ba la ga pa ye se pe zo le do wa do wa i shu.